Martin Caouette, titulaire à la chaire Auto-détermination et handicap, a publié un article sur son compte LinkedIn intitulé « Parler du coronavirus COVID-19 », donc la maladie qu'on appelle la COVID-19 avec les personnes ayant une déficience intellectuelle. Et je le joins avec plaisir. Bonjour, Monsieur Caouette.
Bonjour.
Quel était donc, mais avant de parler de l'objectif de votre article que vous avez publié récemment, est-ce que vous...
Autodétermination et handicap, elle est associée à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est une structure qui nous permet d'une part de développer des projets de recherche qui nous amènent en fait à mieux comprendre comment est-ce qu'on peut aider les personnes qui ont une déficience intellectuelle, notamment à avoir du pouvoir sur leur vie, à prendre des décisions, à agir, à prendre des initiatives. Donc, on travaille beaucoup sur tout ce qui touche la vie résidentielle, puis également l'intégration au travail. Puis d'un autre côté également, on travaille à offrir des activités de formation à des groupes intéressés justement à intervenir pour favoriser davantage le pouvoir d'agir des personnes puis leur capacité à s'affirmer puis à prendre leur place dans la société.
Alors, de beaux objectifs, une belle mission. Et justement, vous avez pensé écrire un article pour aider les personnes qui ont une déficience intellectuelle et leur entourage aussi à peut-être mieux comprendre, démystifier ce qu'est le coronavirus, mais aussi comment vivre avec cette réalité.
Oui, bien, en fait, il me semblait important, justement, dans la foulée des objectifs qu'on poursuit avec la chaire Autodétermination handicap, de proposer, en fait, bien sûr, il y a tout le respect des règles là, actuelles, qui pour préserver la santé, mais il ne faut pas perdre de vue aussi l'importance de faire en sorte que les personnes puissent comprendre ce qui est en train de se passer,
oui,
puis être active elles aussi dans cette situation-là. Donc, ça a été vraiment le déclencheur de cet article-là.
D'accord. Et M. Caouette, pourquoi vous dites dans votre lettre qu'il ne suffit pas de prendre des mesures pour protéger la santé des personnes ayant une déficience intellectuelle, mais qu'il faut aussi faire appel à leur autodétermination pour que ces personnes comprennent la situation? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement?
Oui, bien, en fait, en ce moment, on nous demande de rester à la maison, on nous demande d'éviter les contacts, d'éviter les sorties, puis c'est tout à fait juste, je pense qu'il faut respecter ces consignes-là. Pour que ces consignes-là soient appliquées, en fait, il faut aussi en comprendre le sens. Hein. Je pense qu'on le vit tous, c'est quand même difficile de ne pas faire ce qu'on fait habituellement, puis pour la personne qui a une déficience intellectuelle, si on lui impose seulement, en fait, des nouvelles règles ou si on lui dit, ben voilà, désormais les choses se passent comme ça, sans prendre le temps d'expliquer le sens qu'il y a derrière ça,
oui,
et sans non plus être sensible au fait qu'elle aussi pourrait avoir besoin de faire des choses pour se sentir aidante dans la situation. Donc, c'est cet aspect-là, en fait, et c'est pour ça que j'ai voulu écrire cet article-là, pour faire en sorte qu'on n'oublie pas que, ben, par exemple, prendre contact avec un proche par téléphone, par Skype, de sentir en fait qu'on est actif. On en a tous besoin dans la situation actuelle pour justement pouvoir apporter notre contribution. Puis c'est la même chose pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Bien sûr. Est-ce que vous avez des exemples sur ce qu'on peut faire ou leur dire pour expliquer autant les changements de leur routine que la raison derrière ces changements-là?
Oui, bien, je pense que la première chose, en fait, c'est d'abord de se dire que c'est important d'en parler. Ça peut sembler évident, mais on pourrait tenter dans le contexte actuel de se dire, bon, ben on va éviter le sujet où on risque de créer de l'inquiétude si on en parle. Mais au contraire, en fait, en ce moment, ne pas en parler ou éviter la discussion, il y a quand même un mouvement ce qui est en train de se passer est quand même majeur. Puis les personnes le perçoivent, que ce soit par la télévision, que ce soit par des conversations qu'ils entendent ou tout simplement parce que leur routine peut être complètement chamboulée. Donc, déjà, de se dire que c'est important d'en parler et ensuite d'en parler en fait en utilisant les termes qui vont rendre les choses le plus concret, le plus pragmatique possible. C'est-à-dire, c'est quoi les conséquences en ce moment? C'est quoi les changements? Qu'est-ce qui se passe en ce moment qui est différent? Déjà, pour rendre ça là, de la façon la plus concrète possible. C'est pour ça que j'ai voulu, dans la lettre un peu que j'ai publiée, donner des exemples de termes ou de façons d'expliquer c'est quoi le coronavirus, c'est quoi le COVID-19. C'est un terme qui, il y a 6 mois, personne d'entre nous ne connaissait. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est? Ben, c'est un virus, mais un virus, c'est un petit microbe qui peut rendre des gens malades. Puis quand on est malade, ben, voici, pour certaines personnes, ça peut ressembler à une toux, ça peut ressembler, les personnes peuvent avoir de la fièvre, puis pour d'autres, ben, ça peut les rendre plus malades encore et certaines personnes peuvent en mourir. Mm-hmm. Mais très peu de personnes vont en mourir. Donc, tout ce langage-là, il devient important, en fait, pour que ce soit accessible là, pour les personnes.
Oui, parce que si on leur explique pas la situation, elles doivent se poser des questions sur les changements, justement, dans leur vie. Moi, j'ai une cousine qui a une fille qui vit avec une déficience intellectuelle, qui est sortie de son école, qui, elle, vit à l'Arche, donc ça perturbe sa routine. Elle ne va plus à l'école, elle ne travaille plus ou fréquente plus son centre de jour, de vie même. Alors, oui. Ça affecte les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. C'est pour ça qu'il ne faut pas les laisser en plan.
Exactement. Et c'est pour ça que, dans la mesure du possible, ce qu'on peut maintenir comme routine, comme rituel, comme habitude, c'est important de le maintenir. Si, par exemple, on a l'habitude le soir de prendre le repas à 17 heures, on continue tout ce qu'on peut continuer comme routine dans le contexte actuel. Oui. Et on peut peut-être aussi faire en sorte de créer des nouvelles habitudes. Et vous voyez, depuis quelques jours, là, je voyais encore l'invitation à clignoter les lumières à 20h30 mm-hmm. pour se dire qu'on est les uns avec les autres, ben, si on le fait, ça peut être un moment en plus qui nous amène quelque chose où on s'amuse, c'est ludique, puis ça devient une nouvelle routine aussi qui s'installe, donc on construit des petits repères comme ça.
Oui, des petits rituels.
Exactement. On peut se mettre une habitude aussi que le matin ou le soir, on s'assoit ensemble, puis on parle de la situation, puis on donne des nouvelles informations. Donc, progressivement, il y a quelque chose comme ça qui devient rassurant, puis de nouveaux repères petit à petit qui s'installent.
Oui, et c'est bon pour tout le monde, ça, M. Caouette. On est tous très anxieux, ou en tout cas plus ou moins anxieux, ça dépend de la personne. Il y a des gens qui sont extrêmement inquiets, il y en a qui sont plus insouciants, on aimerait qu'ils le soient plus inquiets. Mais est-ce que cette angoisse, cette peur est vécue de la même façon par les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle?
Bien, on va avoir en fait la même diversité de réactions chez les personnes qui ont une déficience intellectuelle que chez tout le monde, en fait. C'est-à-dire, pour certains, oui, ça va être des réactions face au fait que leur routine est changée. D'autres vont être inquiets d'être malades. D'autres vont peut-être prendre ça plus à distance sans nécessairement être anxieux. Mais c'est certain que de nommer qu'il y a des personnes que la situation rend anxieuse parce qu'on ne sait pas certaines choses. Il y a des personnes qui le vivent mieux. Et c'est pour ça aussi que dans la lettre, je suggérais en fait une façon simple de dire, pour rendre les gens actifs, ça peut être de dire, tu sais, autour de nous, il y a des personnes avec qui on peut parler, nos proches, nos amis, les gens que tu aimes. Parmi les gens que tu aimes, il y a des gens qui vont être nerveux, qui vont être anxieux de la situation, qui vont avoir peur et d'autres pas. Donc, peut-être qu'ensemble, nous, on peut les rassurer en leur donnant des bonnes habitudes, en leur suggérant des choses à faire pour aller bien. Donc, de cette façon-là, ça vient aussi combattre un peu notre propre stress, notre mm-hmm. propre anxiété, quand on sent qu'on peut faire des choses pour aider nos proches.
Oui, propage l'info, pas le virus. Ça, j'imagine que les jeunes, en général, aiment ce genre de vidéos qui circulent. Alors, ça, on les trouve facilement sur les réseaux sociaux. Je pense aux messages de Julien Lacroix, de Marie-Mé, de Rachid Badouri, très, très drôle. En passant, si vous n'avez pas eu la chance de le voir hier, je l'ai suivi sur Facebook. Et puis vous, votre lettre, M. Caouette, est-ce qu'elle est facilement repérable?
Oui, en fait, là, à se propage, même si c'est peut-être pas le terme à utiliser, mais à se propage sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, en allant, en fait, là, soit passant par Facebook, sur le site de la chaire Autodétermination et Handicap, ou encore si vous êtes sur le réseau LinkedIn, vous pouvez également aller là sur ma page personnelle, là, Martin Caouette, donc vous allez la trouver. Puis j'invite vraiment les gens, si ça peut être utile, n'hésitez pas à la prendre, à la modifier, à l'ajuster à votre besoin. Là, pour moi, c'est vraiment, plus elle va voyager, si elle peut aider, je vais être en, je vais en être très heureux.
C'est parfait. Et puis, propage, c'est le très, très bon mot, M. Caouette. Oui. Propage l'info, pas le virus. C'est maintenant le slogan de François Legault et de toute son équipe. Puis, c'est ce qu'il faut faire. Alors, un grand merci de nous avoir accordé cette entrevue. Je rappelle que vous êtes titulaire à la chaire Autodétermination et handicap. Bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.